Sud Radio, Regard de femme.
Regard de femme avec aujourd'hui, ça ne s'invente pas, nos deux avocates. Bonjour Aurore Boyard, avocate à Toulon.
Bonjour.
Bonjour Caroline Grima, avocate dans le Val-d'Oise.
Bonjour.
Alors évidemment, aujourd'hui, l'actualité, c'est l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous qui êtes d'éminente juriste et qui suivez l'histoire judiciaire depuis des années, qu'est-ce que vous inspire cette arrestation ?
La première réflexion que ça m'a inspirée, c'est de me dire que finalement, la cavale parfaite et le crime parfait n'existent pas. Et de moins en moins de nos jours. Et malgré l'ancienneté de la disparition de cet homme...
8 ans et demi.
Finalement, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on nécessite des aides extérieures, des complicités, des planques, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on est tributaire de l'intervention des autres et on est donc faillible. Et on peut faire un faux pas, parfois complètement idiot, et qui amène à une interpellation qui l'est tout autant, malgré un dispositif et malgré une préparation en amont extrêmement sophistiquée, puisque c'est ce qui semble se détacher des premiers éléments dont on dispose depuis son interpellation.
Aurore Boyard.
Oui, alors moi aussi, ma première... lorsque j'ai appris la nouvelle hier soir, effectivement, la première réflexion que je me suis faite, c'est enfin, on va peut-être savoir ce qui s'est passé. Alors, je rappelle quand même qu'il est présumé innocent. Ça, c'est important parce qu'il est vrai que plus de 8 ans de cavale...
C'est vrai que depuis hier soir, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'appel au lynchage.
Mais bien sûr. En fait, il est quand même présumé innocent. C'est-à-dire que même si on peut tous penser que c'est lui qui a commis, qui a tué son épouse et ses enfants, néanmoins, pour la loi française, il est présumé innocent pour l'instant. L'enquête va pouvoir démarrer. La question que l'on se pose tous, c'est va-t-il parler ? Donc, les paris sont ouverts, hein, entre guillemets. Caroline pense que non. Moi, je n'en sais rien, en fait. Et je vous avoue que je serais assez intéressée d'avoir entre les mains par la suite le rapport d'expertise psychologique et psychiatre, qu'on soit bien clair, hein, je ne pense pas du tout qu'il y ait un problème psychiatrique. Bien sûr, l'irresponsabilité pénale, à mon avis, ne sera pas dans ce dossier. Mais c'est quand même assez intéressant de voir comment il a pu vivre sur ces 8 années. Ça va être finalement le feuilleton de tous les mois qui vont venir.
Mais alors justement, il y a une chose, on l'apprend, c'est Jean-Marc Morandi, son blog, qui le lance, un témoignage d'un proche de Xavier Dupont de Ligonnès qui dit « Je le connais depuis 30 ans, je suis allé à son mariage, ça ne peut pas être lui. »
Ah mais oui. Vous savez, ça c'est systématiquement ce que l'on voit dans les dossiers criminels ou même les dossiers correctionnels lourds. Vous avez toujours le bon témoin de moralité qui vient et qui est tout aussi étonné que vous et qui dit « Mais moi je le connais depuis des dizaines d'années, jamais il aurait pu faire une chose pareille, ça ne peut pas être lui. » Surtout que, on l'a vu, vous l'avez dit, 8 ans et demi se sont écoulés. Dans l'imaginaire collectif, beaucoup le pensaient décédé,
suicidé. Il y a même un livre qui était sorti qui disait, bon, il s'est suicidé, on n'a pas retrouvé le corps, mais il s'est
tout
suicidé.
Tout à fait. Donc, il y a une espèce de mythologie qui s'est forgée autour du personnage depuis ces plus de 8 ans qui se sont écoulés. Et évidemment, ça va être aujourd'hui, un peu le déballage de toutes les conjectures possibles et imaginables. Pour revenir sur ce que disait Aurore, c'est vrai que lors d'une interpellation comme ça de quelqu'un d'extrêmement recherché ou en tout cas qui fait partie vraiment de l'histoire judiciaire française, on n'a qu'une envie, c'est de l'entendre s'expliquer.
Mais surtout, il y a 8 ans et demi, il y a beaucoup de choses à raconter.
Voilà.
Qui l'a aidé ? Comment a-t-il vécu ? Comment a-t-il changé d'identité ? Comment a-t-il pu changer de pays ?
Tout ça relève de la conjecture pure et vraiment, on ne peut pas affirmer à 100% qu'il va ou non parler. Pour ma part, j'ai dans l'idée que il va garder le silence. En tout cas, c'est ce qu'il a exprimé dès hier lorsqu'il a été interpellé à sa descente de l'avion. Il a dit qu'il ne s'exprimerait pas. Bon, ce qu'on peut comprendre parce que la garde à vue débute dans un pays étranger, dans une langue qu'il maîtrise, puisque manifestement, il maîtrisait très très bien l'anglais. Mais en tout cas, il a indiqué qu'il ne parlerait pas. Et s'il souhaite conserver son mystère, il en a, entre guillemets, malheureusement, le droit.
Oui, mais alors, ce qui va être intéressant quand même, c'est qu'il y a tout ce qui se passe autour de lui. Il y a quand même sa famille.
Oui.
Bah oui, sa mère, sa sœur, tout ça. En fait, peut-être que pour l'instant, il a pour idée de ne pas parler. Mais on ne sait pas, parce que le temps, on connaît ce que le temps fait dans les dossiers. Et c'est vrai, comme disait Caroline, moi j'ai eu un dossier une fois où quelqu'un avait commis des attouchements sexuels sur mineurs. Il avait reconnu les faits. Une partie de son entourage disait qu'il était toujours innocent.
Oui.
Donc il y a toujours des gens. Ça, on va rentrer dans, de toute façon dans un schéma classique.
Il y a toujours des complotistes, etc.
Mais bien sûr, mais on va rentrer dans un schéma.
Sur la Lune.
Mais oui, on va rentrer dans un schéma comme ça. Non, aujourd'hui, il va falloir déjà.
De toute façon, excusez-moi, je vous pose une question. Vous êtes toutes les deux avocates. Oui. Les empreintes digitales sont les siennes, donc ça ne peut être que
de toute façon, oui, ça, l'ADN, les empreintes digitales, de toute manière, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute sur son identité. Maintenant, on verra. Mais ce qui va être intéressant, c'est que là, on repart à zéro. Parce qu'on l'a retrouvé, il va falloir détricoter toutes les espèces de fantasmes et d'histoires que tout le monde a pu raconter sur ce qui s'est passé pour repartir à la base et puis essayer de raisonner sur maintenant les peu des éléments qu'ils ont en leur possession. Ça va être passionnant, cette enquête judiciaire.
Mais une question, c'est le Royaume-Uni qui va sortir dans quelques jours de l'Union européenne. Alors, on a des accords d'extradition. Combien de temps peut prendre son extradition? Parce que même c'est une affaire franco-française, pas franco-britannique.
Je pense que ça va être rapide.
J'ai dans l'idée que oui, s'agissant des relations franco-britanniques,
qu'est-ce que vous appelez rapide? Que dans la justice rapide, parfois, c'est...
Non, mais là, c'est une affaire quand même hors norme. Il faut c'est... quand même...
Au maximum, à mon avis, quelques semaines. Mais oui, vraiment, mais je ne suis même pas sûre.
Oui, je pense qu'on est peut-être même pas sur quelques semaines. Je pense que ça va être effectivement très rapide. Bah, de toute façon, on l'attend de pied ferme. Et puis moi, vraiment, je vais suivre ça de façon...
Oui, il y a quelque chose de passionnant, encore une fois, à la condition qu'on puisse avoir des détails.
Mais on en parlait tout à l'heure, il a copié-collé son parcours avec celui de John List, qui avait massacré sa famille. Il a même fait le meurtre de son dernier enfant, séparément des autres. Est-ce que quelque part, malheureusement, on peut chercher son inspiration au mauvais sens du terme, sur des tueurs de ce type?
Oui, on l'a déjà vu auparavant. Ça existait.
S'en inspirer, je pense que oui. Vous savez, des meurtres à caractère familial comme celui-là, la France en a connu d'autres par le passé.
L'affaire Roman, Jean-Claude Roman.
L'affaire Jean-Claude Roman, l'affaire du Grand Bornan. Alors effectivement,
là, c'est le Grand Bornan, c'est toute une famille qui avait été massacrée, mais par quelqu'un extérieur à la famille. David Dautia.
Voilà, mais si vous voulez, je pense que si on peut retrouver effectivement des similitudes, je crois que les profils psychologiques sont vraiment très, très, très individualisés, très marqués par un parcours antérieur. Et on sait que s'agissant de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a tout un environnement familial, tout un environnement religieux, d'origine culturelle, etc., très important et qui a certainement considérablement influencé son comportement.
C'est la raison pour laquelle ça va être très intéressant qu'il soit confronté avec sa mère, sa sœur, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir de cela.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre suite à l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Merci beaucoup Caroline Grimat, merci beaucoup Aurore Boyard. Dans quelques instants, on va parler de la manif Extinction Rebellion avec l'auditeur de la semaine et on reviendra sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec Gérard Lopez, psychiatre et président de l'Institut de Victimologie.